France Culture, il est 16h. Tout de suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science Publique. Vous pouvez nous adresser vos réactions et commentaires par mail pour l'instant depuis notre page internet au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Comment l'odorat agit-il sur nos émotions ? Par rapport à la vue ou à l'ouïe, l'odorat humain apparaît comme mineur. Pourtant, même s'il est nettement moins performant que celui des chats ou des requins, il nous permettrait de détecter des centaines de milliards d'odeurs. Fortement associé à un autre sens, celui du goût, l'odorat semble également capable de véhiculer autre chose que les senteurs en elles-mêmes. Ainsi, une étude publiée en 2012 par Gunn Semin et ses collègues de l'université d'Utrecht aux Pays-Bas montre que nous pouvons capter bien autre chose que l'impression agréable d'un parfum avec notre nez. Les chercheurs ont en effet réalisé une expérience surprenante. Ils ont collecté la sueur d'hommes en train de regarder un film d'horreur ou bien un film induisant le dégoût. Ensuite, un groupe de femmes a été exposé aux échantillons de sueur masculine pendant qu'elles réalisaient une tâche de recherche visuelle, donc sans aucun rapport. Surprise, le visage des femmes exposées à la sueur de la peur ont exprimé de la peur et celles qui étaient exposées à la sueur du dégoût ont eu des expressions faciales correspondantes. Ainsi, une émotion pourrait être transmise par les odeurs et notre cerveau serait capable de décoder ce message olfactif. De même, les relations entre odorat et mémoire sont surprenantes. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur les secrets de ce sens méconnu qu'elle odora à l'occasion de la sortie en salle, mercredi 10 février, d'un documentaire de Kim Nguyen intitulé « L'odorat ». Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio Haroldo Ayoub Dargel, qui est psychiatre, chercheur à l'Institut Pasteur, Chantal Henry, professeur de psychiatrie à l'hôpital de Mont-d'Or et chercheur en neurosciences sur les liens entre olfaction et émotion à l'Institut Pasteur, Gabriel Lépouzé, chercheur en neurosciences dans l'unité perception et mémoire également à l'Institut Pasteur, donc ces trois chercheurs travaillent dans la même unité, et nous sommes également avec Bernard Perroux, qui est fondateur de la première association concernant l'anosmie en France. Je vous rappelle que vous pouvez nous adresser donc vos réactions à cette émission. Pour l'instant, le système de commentaires n'est pas encore remis en service sur le nouveau site de France Culture, mais vous pouvez nous adresser des mails avec le lien que vous allez trouver en bas à droite sur la page de Science Publique sur franceculture.fr. Gabriel Lépouzé, bonjour.
Bonjour.
Donc avant de parler des relations entre l'odorat et les émotions, et aussi ces relations avec la mémoire, peut-être faut-il repréciser quel est ce sens ? Comment fonctionne-t-il ? Que se passe-t-il quand nous sentons une odeur ?
Bien, quand on sent une odeur, déjà peut-être se poser la question de qu'est-ce qu'une odeur ? Une odeur, c'est donc une molécule volatile qui peut passer en phase vapeur dans l'air et qui peut arriver via notre nez jusqu'à la muqueuse olfactive qui se trouve à peu près entre nos deux yeux, tout en haut du sinus. Et c'est à ce niveau-là.
Au-dessus des sourcils.
En dessous des sourcils,
voilà. C'est ce que vous montrez, mais à la radio, c'est pas forcément
donc,
facile.
C'est à ce niveau-là qu'il se trouve une muqueuse qui contient des neurones olfactifs, qui vont détecter ces molécules volatiles. Alors, ces molécules volatiles, je vous ai dit, elles peuvent venir directement via notre nez quand je vais sentir un parfum, sentir une fleur. Mais ces molécules volatiles peuvent aussi naître dans notre bouche quand je vais prendre un aliment, que je vais le mâcher. J'ai des molécules volatiles différentes qui vont sortir suite au travail de mastication, à l'interaction avec la salive. Et ces molécules volatiles vont passer à l'arrière de la bouche et remonter pour revenir chatouiller cette muqueuse olfactive. Donc vous voyez, il y a deux voies d'accès au système olfactif. La voie orthonasale, directe via le nez, et la voie rétronasale à l'arrière de la bouche. Ces molécules volatiles, elles sont très nombreuses. On en connaît l'industrie chimique, on a répertorié plusieurs dizaines de milliers. Et elles viennent chatouiller donc ces neurones olfactifs qui ont la particularité d'exprimer des récepteurs olfactifs. Un récepteur olfactif, c'est quoi ? C'est une forme de serrure qui va détecter la présence d'une clé, la clé étant cette molécule olfactive. Et donc chaque neurone olfactif exprime un seul récepteur olfactif. Et chez l'homme, nous avons la possibilité d'exprimer 400 récepteurs différents. Imaginez donc qu'on a 400 serrures différentes qui nous permettent de reconnaître différentes molécules volatiles.
Ça voudrait dire qu'on ne peut détecter que 400 odeurs différentes ?
Alors, pas tout à fait. Pour une raison simple, c'est qu'une molécule olfactive n'est pas en fait une clé, mais en fait est faite plusieurs clés. Et donc, chaque molécule olfactive va donc activer plusieurs récepteurs, une combinaison de récepteurs. Et donc, en créant de la combinaison, on crée un codage combinatoire. Et en fait, c'est pas 400 odeurs qu'on est capable de sentir, mais c'est factoriel 14. En langage mathématique, ça veut dire plusieurs milliards d'odeurs. C'est une très bonne question parce que cette question-là de savoir combien d'odeurs on est capable de sentir, quelle est la performance de notre système olfactif, on s'est posé la question depuis longtemps. Et c'est très récemment qu'on s'est reposé la question, qu'on a essayé de réestimer ce chiffre. Il y avait dans la littérature le chiffre de 10 000 odeurs. Et en refaisant des calculs et en essayant de voir comment le système olfactif est capable de discriminer des odeurs, on arrive aujourd'hui à une estimation qui est de l'ordre de 1000 milliards d'odeurs. Et c'est quand même vertigineux. Le vertige, il est d'autant plus important quand on compare ça à notre perception visuelle. Je vous ai dit 400 récepteurs dans le système olfactif. Dans le système visuel, par exemple, le système visuel pour sentir les couleurs, on a 3 photorécepteurs. Un pour le bleu, un pour le vert, un pour le rouge. Et avec ces 3 photorécepteurs, on serait capable de détecter autour d'un million de couleurs différentes. Donc c'est logique qu'avec 400 récepteurs, je puisse sentir plus qu'un million d'odeurs différentes.
Alors ce qui est formidable, c'est que ce système qui a l'air déjà extrêmement sophistiqué chez l'homme est encore plus développé, encore plus perfectionné chez certains animaux. On cite souvent les chats, les requins.
Tout à fait. Alors,
Quelle est la différence en fait ?
La performance déjà, elle existe dans le nombre de serrures qu'on a. Chez l'homme, on en a 400 qui sont fonctionnelles. La souris, par exemple, le chien en a plus de 1000. 1100 chez le chien. Et donc, plus on a de serrures, forcément, plus on a une palette de lecture qui est différente.
Et donc, chez ces animaux, quelle est la différence en termes de performance? Est-ce qu'on peut la qualifier?
Alors, la performance, elle existe donc en termes de serrures, mais aussi, on voit que la muqueuse olfactive de ces animaux aussi est plus grande. Et donc, je vous ai dit qu'on a 400 récepteurs qui sont chacun exprimés par une famille de cellules olfactives. Mais si une odeur franchit notre nez et attaque 1000 cellules olfactives ou 10 000, forcément, vous n'aurez pas la même sensibilité. Et donc, le chien, lui, il a une muqueuse olfactive qui est beaucoup plus développée que la nôtre. La nôtre a été un peu réduite et beaucoup plus vestigiale par rapport à celle des rongeurs ou des animaux qui sont des animaux nocturnes, par exemple, qui vivent avec les odeurs pour beaucoup de fonctions de leur vie.
Alors, on verra pourquoi, justement, on a un système pareil qui s'est développé au cours de l'évolution. Chantal Henry, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes, comme Gabriel, l'épousé chercheur en neurosciences, à l'Institut Pasteur, mais vous êtes également psychiatre.
Oui, je suis plutôt psychiatre.
Plutôt psychiatre, ça c'est à vous de nous dire. Psychiatre à l'hôpital de Mont-d'Or. Alors, quel est le lien justement entre odorat et psychiatrie? Ça ne vient pas forcément tout de suite à l'esprit.
En fait, le système olfactif, sur le plan anatomique, est extrêmement connecté au système limbique, au système des émotions, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une connexion sûrement très forte entre les odeurs et la capacité des odeurs à déclencher des émotions et à mettre en acte aussi notre mémoire, hein, pour évoquer la Madeleine de Proust, où une odeur ou une saveur va pouvoir faire remonter comme ça à la mémoire des événements qui nous ont marqués, en fait, qui sont émotionnellement chargés.
Et qui peuvent parfois être traumatisants.
Aussi, oui. Alors, il y a beaucoup d'associations, par exemple, des vétérans qui ont développé des états de stress post-traumatique. On sait que si on leur fait sentir des odeurs de diesel qui sont associées aux zones de combat, vont déclencher des phénomènes anxieux extrêmement importants. Et si on étudie les réactions, les phénomènes qui se passent dans le cerveau, ça allume l'amygdale. L'amygdale, donc, est cette zone qui génère les émotions.
Alors voilà, on va évidemment creuser cet aspect-là qui est absolument passionnant, de relation entre odorat et émotion. Bernard Perroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en duplex depuis France Bleu Pays Basque à Bayonne. Et vous avez créé l'association que vous présidez et qui est une association qui s'appelle SOS Anosmie et qui donc s'intéresse à cette maladie qui est la privation du sens de l'odorat.
Exactement.
Pour quelle raison avez-vous créé cette association ?
Alors bon, moi j'ai créé cette association parce que je rentre dans ma 10e année d'anosmie et j'ai passé donc 9 ans dans la plus totale, dans le plus total isolement, on va dire. En termes de réponse par rapport à mon anosmie, en termes d'identification à un autre anosmique par exemple, on ne trouvait absolument rien ni sur le net ni en littérature, ou en tout cas des choses absolument pas lisibles pour nous. Moi, j'ai traversé ça à travers une immense détresse pendant des années, et je pouvais imaginer qu'il y avait des millions de gens qui traversent cette détresse, puisqu'on parle de 3,5% de la population qui serait touchée, ce qui nous fait à la louche 2 à 3 millions de gens, ce qui est quand même énorme. Et cet isolement vient en fait, la plupart du temps on va dire, du fait que la médecine n'a pas énormément de solutions à nous proposer. Le recul qu'on a en termes de recherche et en termes médicaux sur l'anosmie, à une dizaine d'années, un petit peu plus, les capteurs olfactifs ont été découverts en 2004, donc on a très peu de recul. Et quand la médecine n'a plus de solutions, le problème c'est qu'on est totalement livré à nous-mêmes. Si on rencontre un psychologue ou autre, la plupart du temps, il faut lui expliquer ce qu'est l'anosmie. Donc, en fait, en termes de soutien, c'est quelque chose de très spécial. Et je voulais absolument essayer de créer un réseau qui nous permette, un, de pouvoir nous identifier, d'échanger, de partager, parce que on est tous tombés dans un bocal. Moi, je vis derrière une vitre en verre. J'ai perdu mes appétits, mes enthousiasmes, mes centres d'intérêt. C'est quelque chose qui fissure un individu. Je pense même que j'y ai perdu une grande part de ma personnalité, parce qu'en fait, on y perd son savoir-être, on y perd son savoir-faire. Ça touche tous les domaines, en fait. Et je voulais absolument qu'on puisse se parler, qu'on puisse proposer à la médecine peut-être un panel beaucoup plus large que quelques isolés. Et par là même, peut-être créer une structure avec des psychologues, des diététiciens, des gens qui puissent nous aider en portant un œil bienveillant sur cette pathologie qui est pratiquement la plupart du temps totalement inconnu. Ça d'une part, et puis j'ai été très très touché aussi par le phénomène de l'anosmie congénitale, avec ces enfants qui naissent sans odorat, et je crois pouvoir dire que j'ai eu l'immense bonheur, moi, d'avoir les odeurs pendant 44 ans, et je voudrais savoir comment ces enfants se construisent. La plupart du temps, enfin moi j'ai recueilli beaucoup de témoignages par le biais de mes sites, mais la plupart du temps, il y a une grande détresse. Ce sont des enfants qui se sont construits en se cachant ou dans le déni, ou en trichant, ou en ayant une attitude de caméléon, on dira. Je pense qu'on ne peut pas laisser des enfants en 2016 sans leur sens se construire, sans leur parler des odeurs, des parfums, sans leur parler des dangers aussi que ça peut représenter.
Alors voilà. Justement, c'est l'objectif aujourd'hui de parler de ce trouble, entre autres, de l'anosmie, que vous citiez tout à l'heure le chiffre de 3,5% de gens touchés. Ça correspond à peu près au résultat d'une étude qui a été publiée l'an dernier par le CNRS, avec le Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, et qui, lui, cette étude aboutit à 9% de Français qui souffriraient d'un trouble de l'odorat.
De l'odorat, oui.
Dont un tiers souffrirait d'un déficit sévère. On retombe à peu près sur votre chiffre de 3%. Est-ce que autour de la table, tout le monde est d'accord sur ces estimations?
Il faut bien différencier les différents troubles peut-être de l'odorat. On a des formes. L'anosmie, c'est une perte totale du sens de l'odorat. On ne sent plus d'odeur et on ne goûte, c'est-à-dire que les arômes dont je parlais qu'on a dans la nourriture, on ne les perçoit plus du tout. Il y a des formes d'hyposmie, c'est-à-dire qu'on a on sent quelques odeurs, mais on a un seuil de détection qui est un peu plus faible. Vous sentez moins bien l'odeur du lilas, vous arrivez moins bien à détecter l'odeur du gaz par exemple qui s'échappe de votre cuisinière. Et puis il y a d'autres facteurs, il y a des formes d'hyperosmie où on va être cette fois-ci capable de sentir très bien les odeurs, on va les détecter un peu mieux. C'est ce qui arrive aux femmes enceintes dans les premiers mois de grossesse par exemple. C'est aussi une forme de détresse parce qu'on va sentir beaucoup d'odeurs que personne ne sent, et ces odeurs qu'on détecte et que personne ne sent, souvent c'est des mauvaises odeurs. Des odeurs de sueur, de pourriture, donc c'est pas forcément une forme de plaisir. Et enfin, il y a deux autres formes de maladies qu'il faut mentionner. On parle aussi de phantosmie, c'est une maladie assez curieuse où on va sentir une odeur alors qu'elle n'est pas du tout présente dans la pièce. C'est une illusion olfactive, une hallucination olfactive. Et enfin, il y a des formes de maladies aussi qu'on appelle la cacosmie, où cette fois-ci, les personnes, quelle que soit l'odeur qu'ils vont sentir, ils vont la percevoir comme mauvaise. Cette odeur de lilas, C'est dégoûtant. Donc c'est là aussi on a une forme de détresse qui est pas liée à la détection proprement dite, mais à l'interprétation de l'odeur. Est-ce qu'on en fait dans le cerveau?
Alors, Haroldo Yacoub d'Argel, bonjour.
Bonjour.
Alors, par rapport à ce que vient de dire Bernard Perroux également, cette méconnaissance de l'anosmie, quel est votre sentiment? Est-ce qu'il est exact qu'aujourd'hui le corps médical est assez démuni face à ces troubles?
Oui, je suis d'accord, il est assez restrict. Par exemple, ces enfants qui ils parlent, par exemple, les régions du cerveau qui... responsable pour les émotions dans ces enfants, elle est aussi mal développée. Elle est affectée par rapport à le trouble anosmique.
Ça veut dire que donc là, dès l'enfance, se développe conjointement
des autres parties du cerveau et des réseaux des connexions responsables pour les émotions, aussi la mémoire, perception et cognition, aussi elles sont affectées par rapport à ces troubles.
Chantal Henry, est-ce qu'il y a quand même une sorte de déficit quand on voit le témoignage de Bernard Perroux? Il semble que les gens qui souffrent de ces affections soient relativement isolés aujourd'hui.
Oui, alors ça survient, ces troubles ce dont parle Monsieur Perroux surviennent d'autant plus que l'anosmie survient de manière beaucoup plus brutale. On sait que si on considère les chiffres d'hyposmie où on commence à sentir moins bien, avec l'âge, malheureusement c'est une fonction en fait que l'on va perdre progressivement. 25% en fait des gens vont être hyposmiques, sentir moins bien à partir de 50 ans effectivement, et ce d'autant plus qu'on est fumeur, etc. Mais comme il y a une diminution progressive...
C'est lié à quoi ce phénomène, lié à l'âge?
Gabriel?
Probablement.
Gabriel est posé.
Donc il faut comprendre que cette muqueuse olfactive, elle est tout le temps en contact avec le milieu extérieur. Et donc elle est aussi en phase d'agression perpétuelle, liée à des bactéries, des virus, liée à la pollution... à la pollution qu'on s'inflige, avec la cigarette par exemple aussi. Et donc, le système a trouvé une solution, une parade, c'est que les neurones se renouvellent tout le temps. Tous les 3 mois, vous avez l'ensemble de votre muqueuse olfactive et de vos neurones qui se renouvellent. Et heureusement qu'on a ça, sinon, si on n'avait pas ça, ça veut dire qu'en 3 mois, on perdrait l'odorat.
Un peu comme la peau. Hein,
exactement, un petit peu comme la peau, le même principe. Ce qu'on voit, c'est que ce renouvellement-là, le turnover, ce renouvellement, il ralentit un petit peu avec l'âge. Ou avec certaines maladies. Et donc, forcément, si ça ralentit, vous avez moins de cellules, et donc vous avez vos capacités de détection qui s'affaiblissent un petit peu. Et ce taux de renouvellement, il change avec l'âge, naturellement, mais il change aussi dans certaines maladies. Mmh. Et c'est important, justement, de voir comment l'odorat peut être un point de lecture pour le développement de la maladie.
Alors Chantal Henry, vous parliez du côté brutal. Là, on voit qu'il y a deux façons, effectivement, d'être affecté au niveau de l'odorat. C'est soit l'accident, et c'est le cas de Bernard Perroux, et également le cas d'une jeune femme qui est interviewée au début du documentaire dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle l'odorat, et qui a été victime d'un accident de voiture. Et donc là, dans ce cas-là, il y a rupture de tous ces neurones, de tous ces capteurs dont parlait Gabriel l'épousé. Et là, du coup, on perd complètement, instantanément, l'odorat.
Exactement, et avec souvent peu de chances de récupération, effectivement. Ouais.
Alors c'est ce qui vous est arrivé, Bernard Perroux, et donc il y a depuis 9 ans, donc il n'y a aucune amélioration de votre état dans ce domaine.
Aucune. Au niveau de l'odorat, absolument rien. Au niveau du gustatif, bien entendu, enfin on perd le goût étant rétro-olfactif, c'est de l'ordre de 75 à 80%. On perd le goût des aliments, donc il me reste les 4 saveurs de base, le salé, le sucré, l'amer et l'acide. Au niveau de l'amélioration, je dirais que c'est surtout là, peut-être, que j'ai pu décliner ces 4 saveurs en dégradé pour essayer d'enrichir cette palette de perception, on va dire, puisqu'il y a, comment vous dire, il y a plusieurs salés, il y a plusieurs sucrés, et ensuite il y a des mélanges à faire avec ça. Alors bien sûr, c'est une redécouverte du goût à travers nos papilles, est-ce qu'elles peuvent nous restituer? Et puis il faut apprendre à oublier ce qu'était le morceau de poulet d'hier, ce qu'était... la confiture d'hier ou les fruits qu'on pouvait manger. C'est véritablement un autre univers. Il faut se réapproprier la nourriture telle qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc ça m'a pris des années. Et puis je suis passé donc ensuite par pas mal de souffrances physiques puisque j'avais pas les bras assez longs pour repousser mon assiette. C'était à la fois psychologique et physique avec des spasmes gastriques. Et ça a été pas mal d'années de souffrance, en fait, où on meurt de faim devant un frigo qui est garni, qui offre plusieurs possibilités de structure et autres. Mais il y a, au niveau de la tête, certainement, il y a un refus terrible et le corps, malheureusement, il suit. Donc il y a énormément de souffrance et je pense qu'on peut là aussi, en étudiant un petit peu tout ça, en prenant le recul, en apportant un petit peu d'espoir aux gens au lieu de les laisser seuls devant cette stratégie de survie quelque part. En étudiant tout ça et puis les stratégies des uns et des autres, on pourrait peut-être amener les gens à pouvoir se réalimenter d'une façon plus normale et puis retrouver un plaisir de la table et de tout ce qui va avec. Et c'est immense. Voilà.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti.
Nous débattons aujourd'hui la question « Comment l'odorat agit-il sur nos émotions ?» avec nos invités, Haroldo Yacoub d'Argel, qui est psychiatre, chercheur à l'Institut Pasteur, Chantal Henry, professeur de psychiatrie à l'hôpital de Mont-d'Or, Gabriel Lépouzé, chercheur en neurosciences dans l'unité Perception et Mémoire à l'Institut Pasteur, et Bernard Perroux, fondateur de la première association sur l'anosmie en France. Alors justement, Gabriel Lépouzé, vous avez également été victime d'un accident de l'odorat.
Effectivement, un petit peu comme le personnage du film Molly Birenbaum qui explique ce qui lui est arrivé, j'ai subi un accident violent aussi, qui est un accident, un trauma occipital, donc je tape ma tête sur l'arrière, et ce qui se passe quand on tape sa tête sur l'arrière de la tête, le cerveau bouge dans sa boîte crânienne.
Il avance. En fait.
Et c'est le contre-coup de cet accident-là qui a induit une déchirure à l'avant de la tête au niveau de la muqueuse olfactive. Il faut savoir que parmi tous les nerfs qui quittent notre cerveau, le nerf le plus fragile qui y est, c'est le nerf olfactif. Il n'est pas fait comme les autres nerfs, c'est pas une grosse corde avec tous les nerfs qui sont à l'intérieur, c'est plutôt un fin tissu qui relie la muqueuse olfactive à la première structure du cerveau qui reçoit l'information olfactive qui s'appelle le bulbe olfactif. Et ce bulbe olfactif et cette muqueuse olfactive sont séparés par un os très fin qui s'appelle la plaque criblée, à travers laquelle passent ces petits nerfs olfactifs qui sont très très fragiles. Et donc, contre-coup, le cerveau bouge dans la boîte crânienne et il y a une déchirure qui, dans mon cas, a sûrement dû être partielle, mais qui a été suffisante pour avoir une anosmie totale d'une minute à l'autre. Alors, effectivement, sur le coup, c'est un ressenti qui est assez déprimant puisqu'on se retrouve complètement anosmique du jour au lendemain. Donc, on regarde son assiette différemment, on regarde une bouteille de vin différemment. On regarde aussi l'environnement autour de soi différemment. Je fais la cuisine, j'ai une casserole qui crame. Et ma femme me dit, mais tu t'as pas senti que ça sent le cramer? Ou le gaz est resté allumé? Tu sens pas qu'il y a du danger? Il y a beaucoup de prise de conscience sur l'importance de l'odorat, en fait. Quand j'ai eu cet accident, j'ai immédiatement essayé de consulter un spécialiste. Le professeur Bonfils à l'hôpital Pompidou, avec qui j'ai fait un examen pour voir s'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas de lésion totale. Et par chance, on a pu observer qu'il n'y avait pas de lésion complète du système olfactif. Et dans les 3 mois qui ont suivi cet accident, j'ai recommencé à sentir une première odeur qui est apparue. Donc c'est un peu un état d'émerveillement. On a une odeur qui réapparaît. Alors, bizarrement, on n'a qu'une odeur qui réapparaît. Moi, je me souviens très bien de ce moment-là où j'ai ressenti une odeur qui était une odeur bizarre, qui entre le solvant et le boisé, l'humus. Et tout sentait cette odeur. Mon yaourt sentait cette odeur. Mes plats sentaient cette odeur, le vin sentait cette odeur, l'eau sentait cette odeur, le savon, l'odeur de mon bébé sentait cette odeur. C'était assez triste aussi, mais quelque part quelque chose était arrivé. Et on part de zéro et on avance un petit peu. Et très progressivement, les odeurs sont revenues. Au départ, les odeurs d'agrumes. Et puis petit à petit, des odeurs plus herbacées. Et ça a mis autour de 2 ans pour revenir progressivement à un état qui, je juge aujourd'hui comme un état qui me permet d'avoir du plaisir autour de moi. Ce que je me rappelle très bien, par contre, c'est le message du docteur qui était derrière moi, qui m'a accompagné, qui m'a dit, à partir du moment où vous ressentez une odeur, ça veut dire que votre muqueuse olfactive n'est pas totalement séparée de votre cerveau et que justement elle est en train de se reconnecter. Cette reconnexion, elle prend du temps et la seule manière de stimuler cette reconnexion, il n'y a pas de médicament aujourd'hui dans le milieu médical, c'est de stimuler son odorat, de stimuler ses neurones pour qu'ils repoussent.
Alors Chantal Haroldo, on voit que là c'est un peu la plasticité du cerveau qui prend le relais après un tel accident, dans la mesure où il est possible de reconnecter ces composantes du système olfactif.
Moi ce que je retiens dans ce discours, c'est que quand on a un odorat, c'est associé à la notion de plaisir. Quand on perd l'odorat, il y a un état de déplaisir, de tristesse, voire de désespoir en fait.
Et on comprend comme s'il n'y avait pas de mauvaise odeur en fait.
Combien il y a une... Alors les fonctions de l'odorat, c'est quoi? C'est autour de l'ingestion alimentaire et de nous protéger de certaines, sûrement, de certaines alimentations. C'est l'évitement du danger. Je sens un gaz et hop, je vais pouvoir m'échapper. Et puis, c'est aussi la communication sociale. C'est beaucoup plus subtil, en fait. Alors, la reproduction chez l'animal, mais sûrement aussi dans la communication sociale chez l'homme. Donc, ça va impacter quand on perd l'odorat, ça va impacter beaucoup de ses fonctions, alors que finalement, on n'en a pas conscience, parce qu'on n'a pas l'impression. Moi, quand je discute avec vous, j'ai l'impression qu'effectivement, le seul canal, finalement, que je vais avoir, c'est l'ouïe, la vision, mais peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui vont passer par l'odorat, mais dont je n'ai pas conscience, puisque beaucoup de choses ne vont pas passer par la conscience. Et ce qu'il y a de vraiment très étonnant, c'est ce lien extrêmement étroit, puisque si on va au-delà de ce que nous a raconté Gabriel, c'est que le bulbe olfactif est vraiment extrêmement lié à l'amygdale qui génère les émotions. Et l'olfaction, en fait, est sûrement un élément pour discriminer la notion de plaisir-déplaisir extrêmement important. Et c'est pour ça que quand on parle d'olfaction, en fait, quand on parle des odeurs, on utilise exactement les mêmes mots que pour parler des émotions.
Et en même temps, parallèlement, on n'est pas complètement convaincu, enfin j'ai l'impression, de ce lien extrêmement étroit entre odeur et émotion. Alors que la proximité dans le cerveau résulte sans doute d'une nécessité. Chantal Henry.
Vraisemblablement, effectivement, en tous les cas.
Pourquoi avoir une telle proximité entre les sièges de l'émotion et ceux de l'olfaction dans le cerveau? Est-ce que quelqu'un a la réponse?
Alors, peut-être que la réponse, elle est à
Gabriel,
voir...
Gabriel, l'épouser.
Dans une vision plus de l'évolution du cerveau. Le sens olfactif, le sens de la détection des molécules, c'est le premier sens qu'a développé le règne animal pour interagir avec son milieu. Les premiers êtres multicellulaires, ils ont interagi avec le milieu extérieur en reconnaissant des molécules. Et si on veut, le système olfactif, c'est peut-être le sens le plus vestigial, le plus primaire qu'on ait, sur lequel s'est bâti ensuite d'autres sens, le sens de la vue, le sens de l'ouïe. Et donc, système olfactif très primaire, il est justement connecté au système limbique, qui est le système, on parle de système reptilien, c'est un système de traitement de l'information qui est très primaire aussi au niveau du cerveau.
Primitif.
Qui est primitif et qui est moins cognitif. On sépare souvent la raison et l'émotion. Et tout ce qui est le système limbique, c'est justement ces émotions-là. Et le système olfactif, il est lié à ce système primaire du cerveau qui est le système limbique, en fait. Donc derrière ça, il y a une histoire d'évolution. Quand on retrouve le système olfactif, on le suit partout et on le retrouve de manière identique chez des rongeurs, on le retrouve de manière quasiment identique chez des insectes et on le retrouve quasiment identique même chez des vers. Et quand je dis identique, c'est que non seulement les récepteurs sont très proches, parfois ils sont plus nombreux, moins nombreux, mais la connectivité est la même. C'est-à-dire que le bulbe olfactif est construit avec des cartes qui sont très sensibles, très similaires entre l'homme et la drosophile. Rendez-vous compte de la pression de sélection qu'il y a là-dessus.
Alors, ce qui est quand même remarquable également, c'est le fait que l'odeur arrive directement, enfin le signal olfactif arrive directement dans ces régions du cerveau, sans passer par la conscience. Chantal Henry a évoqué cet aspect-là, mais il est quand même assez incroyable que, contrairement à la vue ou à l'ouïe, il n'y a pas un décodage par le cerveau de ce signal. Il y a un enregistrement direct dans ces zones du cerveau dont vous parlez,
alors,
Gabriel Lépouzé.
Et ça, on le perçoit très bien, justement, quand vous allez sentir une odeur, la première réaction que vous allez avoir vis-à-vis d'une odeur, avant même de savoir ce que c'est, vous êtes capable de dire « j'aime ou j'aime pas ». Alors que pour la vision, vous allez d'abord identifier l'objet que vous avez entre les mains, avant de décider si c'est quelque chose qui est positif ou négatif. Vous voyez, derrière ça se cache vraiment l'ordre et la séquence de traitement de l'information olfactive. Tout de suite, on va d'abord savoir si c'est bon ou c'est pas bon, pour ensuite savoir ce que c'est, l'identifier, le discriminer, le mémoriser.
Chantal Henry.
Ça peut être vraiment un système d'alerte, en fait.
Système d'alerte, donc
d'alerte, il y a danger,
ou
c'est quelque chose d'attractif.
Ou trouver de la nourriture,
voilà,
enfin ça
exactement,
a été...
Exactement, c'est plaisir, déplaisir.
Pour ça. En même temps, on se rend compte que donc notre système émotionnel est très vulnérable à l'action des odeurs, puisque cette action est directe, qu'il n'est pas vraiment possible de l'empêcher, de la filtrer, de la maîtriser.
Alors, comment peut-on s'en servir? Visiblement, certains systèmes de consommation utilisent ça, puisque maintenant, on commence à diffuser dans certains magasins des odeurs. Et si on fait ça, c'est sûrement pour favoriser en fait le fait que les gens achètent. C'est-à-dire qu'on associe beaucoup une odeur plaisante à un état de bien-être, et cet état de bien-être peut faciliter l'achat de différentes choses. Et dans certaines entreprises japonaises, en fait, on diffuse des odeurs différentes d'ailleurs au cours de la journée, soit pour stimuler en fait l'attention ou pour favoriser la concentration.
Donc l'anosmie est une parade à ce genre de pratique commerciale, c'est un des rares petits points positifs. Harold Oy, Ayoub Darjel, vous vouliez intervenir.
Ajouter, si on pense aussi contrairement, là on parlait de l'odeur, la perception pour l'émotion, mais aussi si on voit par rapport à les maladies, par exemple quelques troubles de l'humeur, par exemple, il y a des altérations émotionnelles, une dysrégulation émotionnelle, la perception olfactive, il peut être altéré. Les patients, ils rapportent principalement quand ils ont des émotions plus altérées, par exemple dans les troubles de l'humeur, ils rapportent que leur perception de l'olfaction est altérée.
Alors, on a dit qu'il y avait ce contact direct, mais il y a aussi... apparemment, un décodage de cette zone du cerveau qui perçoivent l'olfaction, qui ne passe pas par une odeur identifiable. Donc ça, c'est encore un autre phénomène assez extraordinaire. On est capable de sentir des choses qui ne sentent rien. Qui veut répondre, Gabriel Dépouzet?
C'est une forme de pathologie, parce que, imaginez, vous êtes dans un monde où vous sentez des odeurs qui n'existent pas. Comment se fier à cette vision de la réalité si elle est complètement altérée? Et là, on s'approche presque de certaines pathologies, comme la schizophrénie, où on a des illusions et on a une déconnexion entre la réalité et la représentation interne du monde extérieur.
Alors, on parle beaucoup dans ce domaine des phéromones. Le phéromone, ça ne sent rien, semble-t-il, et ça peut avoir une action. Alors, quelle action? C'est le gros mystère. Quelle action sur le cerveau de cette molécule? Vous parliez tout à l'heure de ces molécules chimiques, c'en est une. Et elle aurait le pouvoir, et en particulier dans les... rapport entre hommes et femmes, de déterminer certains comportements. Peut-être Chantal Henry, c'est la côté presque psychiatrique de la chose là, qui est le plus déterminant.
Alors chez l'animal, effectivement, un animal qui va, si on met un rat, un mâle avec une femelle... il va commencer par la sentir, effectivement, et c'est ce qui va déterminer le comportement de reproduction. Alors, chez l'homme, on n'est pas là, effectivement, mais il y a sûrement, effectivement, et c'est très bien décrit dans le documentaire, en fait, où il y a une personne qui dit que elle a eu d'entrée avec celui qui deviendra son mari, en fait, des difficultés, parce que, finalement, elle avait du mal avec son odeur, en fait, et donc, il y a sûrement des signaux qui nous échappent totalement, qu'on ne sait pas forcément bien analyser, mais où avec certaines personnes, on aura peut-être un petit peu plus de distance, même si on n'arrive pas à percevoir que c'est une mauvaise odeur, en fait.
Il nous arrive d'ailleurs dans le langage de dire qu'on ne peut pas sentir quelqu'un.
Exactement, ça fait sûrement référence à cela.
C'est probablement lié, mais c'est quand même très mystérieux. Ça veut dire qu'il y a des décisions ou des analyses que fait le cerveau à partir de signaux olfactifs qui échappent à la conscience, Gabriel Dépouzet.
Tout à fait. Alors, pour en revenir aux phéromones, il faut être bien clair là-dessus. Les phéromones qu'on nomme phéronones chez l'animal, par exemple, qui induisent des comportements souvent de reproduction, chez l'homme, quand on recherche le système de détection de phéromones, il n'existe plus. Il n'existe plus parce que les récepteurs, donc les serrures qui sont censées détecter les phéromones, ne sont plus fonctionnelles.
Elles ont disparu au cours de l'évolution.
Elles ne fonctionnent plus, en fait. Elles sont même plus exprimées en termes de protéines. Et on voit que l'organe voméronasal, c'est le nom de cet organe qui serait sensible pour détecter les phéromones. Chez l'homme, il est sous forme vestigiale, soit même il n'existe même plus au niveau du nez. Il se trouve normalement, il devrait se trouver, mais il est plus là, au niveau du septum, donc cette zone qui sépare nos deux narines. Donc ça indique que, au niveau de la détection proprement dite des phéromones, nous, espèce, nous avons complètement dérivé.
On n'est plus équipé pour.
Voilà. Mais ça ne veut pas dire que notre nez n'est pas capable de sentir des molécules qui peuvent influencer de manière inconsciente sur notre cerveau. Et vous l'avez un petit peu décrit au départ, on a un système de détection d'information sensorielle qui échappe à un filtre d'attention et de filtre conscient de l'information. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a beaucoup d'odeurs qui sont capables d'influencer notre perception sans même qu'on soit capable de sentir que l'odeur est dans la pièce, par exemple. Donc il y a vraiment un traitement inconscient et aussi un traitement conscient de l'odeur. Bien sûr, vous êtes capable de dire, il y a une odeur dans cette pièce ou pas. Je la sens, je l'identifie, elle s'appelle comme ceci.
Donc ça veut dire que les phéromones, en tout cas, n'interviennent plus dans les relations entre hommes et femmes, par exemple, Chantal Henry.
Oui, a priori, oui, mais il y a...
Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? J'avoue que je ne sais pas trop...
Plutôt une bonne, je pense, mais ça peut passer par des odeurs par dont on n'a pas, dont on n'a pas conscience, mais qui utilisent effectivement le même système pour détecter des odeurs dont on peut avoir conscience.
Alors, pour revenir à cette expérience dont je parlais en introduction, elle est quand même assez troublante, puisque là, c'est une odeur qui n'est pas... contextualisé, c'est-à-dire qui a été prélevé sur des hommes face à un film, par exemple, d'horreur ou un film qui induit le dégoût. On prélève, je le rappelle, la sueur sur ces hommes et ensuite on diffuse ces odeurs à des femmes qui sont en train de faire tout autre chose, donc qui n'ont absolument aucun signal pouvant évoquer la peur ou le dégoût. Et il se trouve qu'elles ressentent ces émotions-là quand elles sont exposées à ces molécules donc prélevées chez des hommes qu'un moyen de les poser. C'est troublant.
Alors c'est troublant et ça pose une question importante, c'est de savoir, est-ce que ces odeurs, ces personnes, est-ce qu'elles ont appris à reconnaître ces odeurs ? Et la réponse, elle est non, c'est des odeurs qui agissent sur nous de manière complètement innée. Et je repose la question différemment, est-ce qu'il y a des odeurs qui sont innées ou des odeurs qui sont acquises ? Effectivement, il y a des odeurs innées, j'entends par là des odeurs qu'on n'a jamais rencontré de notre vie, mais dès qu'on la sent, on va tout de suite réagir de telle manière.
Le bébé par rapport à l'odeur du lait de sa mère ?
Le bébé par rapport à l'odeur de sa mère, mais pour nous, par exemple, plus adultes, ça serait par exemple l'odeur d'un cadavre en putréfaction. Cette odeur-là, on l'a jamais mangée de notre vie, j'espère. Et pourtant, tout de suite, on sait que cette odeur, c'est quelque chose qu'il faut vite s'écarter. C'est quelque chose de pourri qu'il faut surtout pas ingérer. Des odeurs de fermentation, des odeurs de putréfaction, de molécules aminées qui se décomposent. Tout ça, on va pas être obligé de le manger pour savoir que c'est mauvais. Donc, il y a un codage inné de certaines odeurs. Et puis, il y a certaines odeurs qui sont acquises. C'est-à-dire qu'on a appris que l'odeur du citron, c'est comme ça, ça sent ce côté un petit peu acidulé, c'est associé à d'autres concepts, et on a appris que citron, ça voulait dire ça. Donc il faut bien différencier ces deux types de perceptions, et dans l'expérience que vous avez décrite, probablement on est là en train de signaler sur le système olfactif avec des odeurs qui sont probablement innées.
Et oui, alors ça c'est encore plus extraordinaire, inné ou acquis. Est-ce que ça veut dire, Chantal Henry, que il y a là une mémoire, donc parce que là on retrouve finalement un lien avec la mémoire, dans le cas où c'est inné, évidemment c'est une autre mémoire qui vient des parents ou qui vient de l'évolution, mais pour ce qui est de la mémoire acquise, on sent que l'odeur ou l'olfaction et la mémoire sont très liées également. On a parlé beaucoup des émotions, mais la mémoire joue un rôle important.
Oui, on va construire en fait au cours de notre histoire une grammaire qu'on va enrichir. On part sûrement avec des odeurs qui vont, du fait de l'évolution, nous permettre de détecter des dangers. Donc des odeurs peut-être un petit peu, surtout les odeurs déplaisantes qui nous avertissent d'un danger. Et puis au cours de l'évolution, et même peut-être déjà in utero, des odeurs qu'on va même pouvoir apprendre in utero vont nous enrichir notre histoire et fait qu'on va avoir certaines des parties de notre histoire qui vont être extrêmement liées à certaines odeurs, effectivement.
Est-ce que c'est la base de certaines thérapies qui font appel aux odeurs pour agir sur certains troubles psychiatriques ?
Non, à l'heure actuelle, on n'a pas de thérapie qui pourrait nous dire que certaines odeurs vont être...
L'aromathérapie, ça s'appelle.
Alors, l'aromathérapie, oui,
peut-être que nos auditeurs ont entendu parler de ce mot.
Bien sûr, plus associé, je pense, à des notions de bien-être, effectivement. Alors, par exemple, quand on fait des massages, très souvent, c'est associé à une ambiance avec des odeurs plaisantes, etc. Mais en fait, c'est plutôt le massage qui va détendre et apaiser plutôt que ces odeurs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de mieux comprendre les liens qui existent entre un état émotionnel et l'olfaction pour mieux comprendre en fait cette circuiterie qui reste quand même dans cette boîte noire encore très étrange et comment effectivement l'odeur pourrait être des indicateurs de dysfonctionnement de ces parties qui génèrent nos émotions et qui les contrôlent.
Donc pas de thérapie. Dans le documentaire dont on parle depuis le début de l'émission, il y a justement une thérapie basée sur pour essayer de redonner le goût de vivre à quelqu'un qui est un petit peu renfermé sur lui-même. Et semble-t-il, une odeur peut déclencher certaines réactions chez lui.
Là, c'est différent. C'est une dame qui a perdu la mémoire et on va faire appel à son odorat, en fait, pour lui faire, pour évoquer certaines parties de son histoire, en fait. Et lorsqu'on lui fait sentir une odeur qui est associée à quelqu'un de familier, elle se met à pleurer parce que là, elle se remémore certaines choses alors qu'elle est amnésique.
Voilà, donc là, encore une autre type de mémoire que l'on déclenche grâce à une odeur.
Grâce à une odeur, oui.
France Culture, Science Publique. Michel Alberganti.
Comment l'odorat agit-il sur nos émotions? C'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui et nous recevons Arolo Ayoub Dargène, qui est psychiatre chercheur à l'Institut Pasteur, Chantal Henry, professeur de psychiatrie à l'hôpital de Mont-d'Or, Gabriel Lépouzé, chercheur en neurosciences dans l'unité perception et mémoire à l'Institut Pasteur, et Bernard Perroux, fondateur de la première association sur l'anosmie en France. Justement, Bernard Perroux, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, quelle est un peu votre réaction? Comment vous vous situez par rapport à toutes ces fonctions que remplit l'olfaction chez l'être humain?
Alors j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt chacun des intervenants. J'ai pu voir le film. On a une approche qui est scientifique, qui est technique et médicale, et qui met en avant le rôle et l'importance des odeurs, à la fois dans leur invisibilité, mais aussi dans la puissance de leur pouvoir. Et en fait, je suis très heureux d'entendre tout ça parce que moi, mon combat, si vous voulez, ce que j'essaie de transcrire, c'est justement ce qui se passe lorsque nous n'avons plus tout ça, tous ces stimuli, toutes ces invitations à la vie. J'entendais tout à l'heure le docteur Chantal Henry qui parlait de stimuli. Il y a aussi les mises en appétit du corps, en fait, le fait de pouvoir saliver, le fait de pouvoir sentir un plat et de mettre son corps en état de l'ingérer une demi-heure après, parce que c'est tout simplement naturel. Pour pouvoir manger, en fait, ça peut découler d'une démarche intellectuelle et cérébrale. Donc, en fait, j'écoute tout ça en me disant, ça met en avant toute la puissance des odeurs dans ce qu'elles apportent. Et je pense que si on pouvait en avoir une lecture comme un négatif photo, on pourrait obtenir une idée de ce que peut ressentir une personne qui ne ressent plus tous ses appétits et tous ses enthousiasmes. Et à partir de là, peut-être commencer à dessiner les contours de ce qui, pour nous, est un véritable handicap. Si je peux me permettre, je vais rappeler la définition du handicap. C'est un terme qui désigne la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, causée par une déficience provoquant une incapacité permanente ou non, menant à un stress, des difficultés morales, intellectuelles, sociales ou physiques. Et c'est ce que je m'efforce d'essayer de mettre en avant. Malheureusement, c'est très difficile d'écrire et de donner son sentiment personnel pour dire voilà, c'est ça qui me manque, c'est comme ça que je réagis. Mais par contre, toutes ces choses qui sont évoquées, quand on ne les a plus, ça met encore plus en avant leur puissance. C'est un petit peu quand c'est le truc de la main que vous avez dans le plâtre et c'est là que vous vous rendez compte à quel point elle est utile, quoi. Mais
alors il y a oui, excusez-moi de vous couper, c'est parce que il faut effectivement peut-être poser la question à nos autres invités sur les stratégies vis-à-vis de ce handicap. Il semble que par rapport à d'autres manques comme les gens qui sont aveugles, les gens qui sont sourds, etc., il y a beaucoup de travail fait autour de recherche de solutions pour les aider. Il semblerait que l'anosmie, même le nom lui-même, n'est pas extrêmement connu et intervient assez rarement dans les débats. Est-ce qu'il y a des stratégies aujourd'hui qui existent pour essayer d'aider les personnes comme Bernard Perroux, Gabriel Lépouzé?
Il n'y a pas, donc il faut, dans les anosmiques, c'est vrai que quand l'anosmie est définitive, il faut commencer à réapprendre à vivre avec un bras en moins, avec un sens en moins. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a vécu avec ça pendant toute notre vie et d'un coup on nous l'enlève. Moi j'ai rencontré des personnes qui sont anosmiques depuis leur naissance et qui me disent mais moi l'odorat j'en ai pas besoin, de toute façon j'ai jamais vécu avec. Et l'odorat devient important pour ces gens-là dans des actes olfactifs sociaux. Et les repas, la nourriture est devenue chez l'homme un acte social, on mange avec des gens. C'est pas comme un chimpanzé qui va chercher sa nourriture tout seul dans le milieu de la forêt. Là, pour nous, hommes, on est devenu une espèce qui, autour du repas, fait un acte social. Donc, l'odorat est devenu social. Et donc, derrière le commentaire de monsieur, il y a aussi le fait que cette dimension sociale, elle est à prendre en compte. Cette personne qui a perdu l'odorat depuis in utero, donc qui n'a jamais vécu l'odorat, c'est comme si nous, je vous disais aujourd'hui, on a perdu un sens, vous avez perdu votre capacité à détecter le champ magnétique ou les ondes gravitationnelles, mais vous avez jamais vécu avec ce sens-là. Et aujourd'hui, ça vous manque pas. Donc c'est, vous voyez, on est dans une difficulté.
Depuis hier, si, ça me manque pour les ondes gravitationnelles.
Mais... ça vous manque aujourd'hui, c'est vrai que le débat est polarisé là-dessus.
Alors je sais qu'elles existent, c'est un manque.
Mais terrible. Cette sensation-là qu'on n'a jamais ressentie, si on vous proposait de la voir, vous seriez un peu dans la confusion. Je veux dire par là que c'est un exercice qui est très difficile, mais il faut réapprendre à vivre sans un sens. Et les personnes qui nous disent qu'ils n'ont jamais vécu avec ce sens-là, nous disent qu'ils sont capables d'interagir avec le milieu différemment. Et on redécouvre des choses. Et monsieur l'a très bien dit, redécouvrir la palette des saveurs et des textures de bouche d'un aliment, on devient capable de différencier un jus de clémentine d'un jus d'orange juste avec la bouche et sans l'odorat. Et c'est un exercice intellectuel où il faut combler un manque. Et ce que font très bien aussi, on voit ça chez les aveugles. Quand les aveugles vous développent avec vous leur capacité d'entendre des choses différemment, de sentir des choses différemment ou de toucher des choses différemment, ils surdéveloppent d'autres sens.
Les autres sens exactement. Prennent un Donc, peu le relais.
Ouais. C'est un acte qui est difficile. Il y a une forme d'apprentissage aussi. Il y a un parcours initiatique derrière. Je dis pas que c'est facile, mais il faut imaginer qu'on peut gagner en perdant un sens aussi.
Chantal Henry.
La question que ça peut poser, c'est chez les gens qui sont hyposmiques, qui vont développer effectivement une perte progressive, et notamment dans certaines pathologies neurodégénératives, comme le Parkinson, où on peut avoir une perte, en fait, de l'olfaction qui précède les signes neurologiques. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une rééducation? Gabriel, tu nous parlais de certaines palettes comme ça, d'odorat pour finalement peut-être rééduquer. Ça pourrait être une solution, mais pas quand il y a une perte totale de l'odorat.
Enfin là, il y a quand même, en termes de perte totale, donc apparemment, d'après l'étude de l'année dernière, 3% de personnes concernées en France, mais il y en a quand même 6 autres pourcents qui sont dans cette situation de perte partielle de l'olfaction.
Oui, et en plus, quand on voit le retentissement que ça peut avoir sur l'humeur, c'est extrêmement important de voir, il y a un enjeu qui est énorme, effectivement, de savoir si on peut rééduquer ou en tous les cas freiner un processus qui peut aller vers l'anosmie.
Alors ce qui est étonnant dans ce contexte, c'est le témoignage de Bernard Perrault qui, semble-t-il, n'a été aidé en aucune façon dans cette situation, alors que... vis-à-vis d'autres handicaps, il semble qu'il y ait plus d'assistance. C'est bien ce que vous nous avez dit, Bernard Perrault.
Absolument, il n'y a aucune prise en charge actuellement des conséquences que l'anosmie peut avoir sur les gens. J'ai des témoignages de gens qui véritablement n'ont pas choisi le bon métier. Hein. Un pompier anosmique qui me confiait sa crainte de monter au feu parce qu'il n'était plus capable de sentir une fuite de gaz. Donc c'est vraiment des répercussions à 360 degrés autour d'un individu et on ne trouve rien. Donc ça a été l'idée quand j'ai écrit les premiers mots, c'était de mettre déjà des mots sur l'invisible et sur ses manques, pouvoir les transmettre aux autres et les aider à sortir du bois. Il y a beaucoup d'anosmiques en fait qui cachent leur handicap. C'est le handicap le plus facile à dissimuler. Mais je pense pas qu'on puisse vivre heureux avec un handicap caché, c'est avec un handicap assumé, oui. Je pense qu'il y a une méthode peut-être à donner aux gens qui peut les amener, un, à retrouver de l'espoir, mais surtout à pas baisser les bras, à continuer à avancer, déjà à s'identifier à d'autres et savoir qu'ils sont pas tout seuls, ça me paraît quelque chose d'essentiel. Mais voilà, il y a un travail qui est colossal à faire pour assister et aider les gens. Les parents qui sont les parents d'enfants anosmiques, qui sont livrés à eux-mêmes, comment pourraient-ils expliquer l'absence des odeurs? C'est vrai qu'un enfant anosmique, il se construit sans, Mais il n'a pas la conscience des dangers en même temps. C'est vrai qu'il a l'air à l'aise en disant « bon, moi, j'en ai pas besoin ». Mais il n'a pas la conscience des dangers. Je pense qu'il y a une notion où soit on a connu les odeurs, soit on ne les a pas connues. Et si on les a connues, c'est une perte immense.
Alors peut-être que ce manque de réaction ou d'aide vis-à-vis des personnes qui sont touchées par l'anosmie ou par des formes plus bénignes de troubles de l'olfaction, c'est lié aussi à une certaine méconnaissance de ce sens. Et que si on le prenait plus en considération, on s'intéresserait également plus aux troubles qui lui sont associés, Gabriel Lépouzé.
Vous avez tout à fait raison, il y a un manque cruel de curiosité vis-à-vis de ce sens-là. Beaucoup de gens se plaignent d'hyposmie ou vont se déclarer hyposmique, je sens moins bien les odeurs. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas bien senti, c'est qu'ils n'ont pas réussi à l'identifier. Je ne sens pas bien cette odeur parce que je ne sais pas ce que c'est. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas senti. Donc vous voyez, la nuance qu'il peut y avoir, et c'est le problème de ces tests qui sont faits à très grande échelle en France ou aux États-Unis, c'est qu'on va déclarer quelqu'un d'hyposmique juste parce qu'en fait, il n'a pas reconnu l'odeur du citron ou de la cannelle. Et derrière ça, il y a...
Okay, c'est difficile d'imaginer qu'il ne connaît pas l'odeur du citron.
Exactement. Donc derrière ça, il y a vraiment le travail qu'il faut essayer de promouvoir. Et l'association des anosmiques peut aussi avoir une mission là-dedans, c'est de promouvoir l'importance des odeurs. Et surtout d'éveiller la curiosité des odeurs. Et on voit que par exemple les enfants sont très curieux vis-à-vis des odeurs, vis-à-vis des plats, et beaucoup moins après quand on devient adulte. Et cette question-là, on la retrouve aussi quand on va interroger non pas des hyposmiques, mais des professionnels du nez, professionnels de l'odorat. Ces gens-là, on se rend compte que leur capacité, ils sont pas meilleurs pour détecter des odeurs, mais ils sont meilleurs pour verbaliser. Et pour associer un mot à une odeur. Ils sont mieux capables de les reconnaître. Et discriminer aussi à la fois quand les odeurs sont dans un mélange. Mais vous voyez, leur seule capacité, c'est de mieux se rappeler des odeurs et de mieux associer un mot, un nom, à une odeur. Et pas forcément meilleure détection, ils sont pas meilleurs que moi pour détecter l'odeur de gaz dans la pièce.
Alors il y a justement dans ce documentaire dont on parle depuis le début de l'émission le témoignage de François Chartier qui d'ailleurs est l'auteur d'un livre qui a servi un peu à bâtir le film et qui à un moment rencontre un sommelier qui lui fait goûter des vins de 1870 et qui raconte ce qui se passe dans les secondes et voire la minute et demie pendant laquelle toute l'odeur du vin se volatilise et donc il est capable à chaque étape de distinguer effectivement la composition de ces parfums. Et voilà un spectacle qui là valorise énormément ce sens, Chantal Henry. Et c'est peut-être ça qui nous manque, c'est une prise de conscience de ce qui se passe dans notre cerveau quand nous sentons des odeurs.
En tous les cas, dans le documentaire, c'est un moment de grande poésie. Il trouve des mots merveilleux pour décrire ce que le font les
odeurs. Et une émotion,
puisqu'il
a la chair de poule rien qu'en repensant à ce moment particulier.
Et c'est vrai aussi pour l'autre nez, qui est cette dame asiatique, qui, à un moment donné, dit que lorsqu'elle sent, on voit ses poils se hérisser, ça déclenche une émotion tellement forte, effectivement, et on voit le lien entre odeur et émotion, pour déclencher une émotion.
Et avec elle, on voit justement cette richesse, à partir d'un seul échantillon, elle est capable de citer 10, 15 composantes différentes en ressentant. Gabriel Lépouzé, c'est spectaculaire de voir cette capacité.
C'est spectaculaire et on se rend compte quand on écoute cette dame que on vit l'expérience olfactive à travers notre mémoire. Je découvre ce qu'il y a dans mon assiette et je découvre ses arômes et chaque arôme je le lis à travers ce que j'ai vécu. Quand est-ce que j'ai vécu cette odeur de citron? Quand est-ce que j'ai vécu cette odeur de safran? On parle beaucoup de safran pendant le film. Ce safran, je l'ai vécu dans un contexte. Et à chaque fois, je vais lire mon environnement olfactif à travers mon expérience olfactive. Et l'expérience de chacun est unique. Et moi, si je sens l'odeur de fraise, par exemple, d'un fruit rouge, je vais appeler ça un fruit rouge. Mais si je vais dans une tribu qui n'a jamais vu de fruit rouge et à qui je fais sentir cette odeur-là, ils vont utiliser un autre mot. Et donc, c'est pour vous montrer l'importance de l'expérience et de l'acquis pour nommer et verbaliser les odeurs et pour ensuite le retransmettre.
Alors voilà, c'est là où on fait la fusion en fait des trois domaines qui sont l'olfaction, l'émotion et la mémoire, et qui sont extrêmement imbriqués, Chantal Henry.
Oui, Donc,
merci de confirmer.
Non, et c'est ce qui nous permet de mieux comprendre, ces liens peuvent nous permettre de mieux comprendre en fait les connexions qu'il y a dans le cerveau et comprendre effectivement pourquoi un patient déprimé aussi va moins sentir les émotions et nous faire mieux comprendre la complexité des interactions dans ce cerveau qui est le déterminant dans nos comportements.
Enfin, par rapport à tout ce que l'on a dit, on n'a pas percé le mystère de ces odeurs inodores pour notre cerveau, notre conscience, mais qui sont analysées par le système olfactif. C'est quand même un des phénomènes les plus troublants. Alors, vous nous avez rassuré, entre guillemets, sur les phéromones, Gabriel Épousé, mais il y en a peut-être d'autres qui agissent directement sur notre système olfactif sans que nous en ayons conscience.
Donc, et ça, c'est un travail qui reste encore énormément à faire, puisqu'on connaît seulement quelques molécules. Je vous ai parlé de plusieurs dizaines de milliers de molécules qui ont été répertoriées par l'industrie chimique. Souvent des molécules qui sont des molécules qu'on a intérêt pour l'industrie chimique parce que c'est un composé qu'on va utiliser dans l'alimentation ou pour aromatiser un aliment ou un parfum par exemple. Mais il y a beaucoup de molécules que l'industrie n'utilise pas qui sont des odeurs mauvaises qu'on n'a pas répertoriées et qui sont, elles, très puissantes en termes de puissance émotionnelle pour nous guider vers des choix. Et donc il y a énormément de travail à faire sur découvrir le palais aromatique qui existe autour de nous.
Ça voudrait dire qu'on pourrait inventer des odeurs insensibles par les clients d'un magasin, mais qui auraient une action très forte sur leur désir d'achat. Est-ce que ça serait envisageable ?
Ça serait envisageable, mais avec un peu de mesure, parce que on est tous un peu différents au niveau olfactif. On est tous un peu différents, parce que je vous ai parlé au début de l'émission de 400 récepteurs. Il faut savoir que entre vous et moi, Michel, nous avons peut-être 400 récepteurs tous les deux, mais on a à peu près 30% de nos récepteurs qui ont des versions un peu différentes. Comme si vous aviez 30% de vos logiciels qui étaient un peu différents des miens. Donc, on ne va pas sentir tout à fait la même chose.
Et puis, on a vécu une odeur commune.
Et on a vécu aussi quelque chose de différent. On a appris le citron dans des contextes différents, on a appris les épices dans des contextes différents, donc on a une lecture différente. Si on veut communiquer ensemble, il faut donc qu'on acquiert un langage commun olfactif. Il faut qu'on apprenne un alphabet olfactif pour ça.
Chantal Henry.
On a sûrement beaucoup plus de choses en commun pour les odeurs qui vont être nous permettre d'éviter quelque chose et nous signaler un danger. Parce que là, ce sont sûrement des odeurs en fait qui sont innées.
Très bien, bien, merci beaucoup. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Haroldo Ayoub d'Argel, à Chantal Henry, Gabriel Lépousé et Bernard Pérou d'avoir participé à cette émission qui, je l'espère, aura contribué à vous donner quelques nouvelles clés olfactives. Pour approfondir ce sujet, vous pouvez bien entendu aller voir le documentaire de Kim Nguyen intitulé L'odorat qui est sorti en salle mercredi dernier et dont vous pouvez visionner la bande-annonce sur le site de Sciences Publiques. Sur ce site, vous pouvez également réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an. Et vous pouvez nous envoyer vos commentaires, réactions et témoignages par mail, comme je le disais en début d'émission, en attendant le rétablissement de la fonction commentaire. La semaine prochaine, vendredi 19 février, France Culture diffusera la table ronde qui sera enregistrée demain, samedi 13 février, dans le cadre du 4e forum L'année vue par les sciences et dont le thème est cette année l'humain dans tous ses états. La table ronde de sciences publiques aura lieu à 11h30, donc demain matin, au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, avec pour thème sexe, hypnose, méditation, peut-on percer les derniers mystères de la conscience ? Donc on reste dans le domaine du cerveau que l'on a abordé aujourd'hui. Nos invités seront Christophe André, Jean-Marc Benayem, Elisa Brune et Jean-Philippe Lachaud. Il est nécessaire et encore temps de vous inscrire et vous trouverez les informations nécessaires sur la page de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Sciences Publiques. Dany Journaux, Élise Leu avec Serge Moncade à France Bleu Pays Basque, Marie Dalquier, Michel Alberganti.